Donc, les saints du jour, il y en a beaucoup aujourd'hui. Je vous signale pour que vous puissiez souhaiter de bonnes fêtes à des gens que vous connaissez qui portent ces noms. Il y a Sainte Berthe. Je connais Sœur Sainte Berthe, une religieuse de la Congrégation Notre-Dame que j'aime beaucoup. Et j'avais d'ailleurs une grande amie de ma mère qui s'appelait Berthe, que je considérais comme ma tante et qui est morte comme une excellente chrétienne. Il y a aussi Saint-André, aujourd'hui Saint-André de Crète, un grand saint chez nos frères grecs orthodoxes. Et aussi le bienheureux Guillaume, un abbé de monastère. Un Saint-Albert aussi qui était évêque, Saint-Albert Guadrilli. Et puis, en Angleterre, il y a eu des martyrs à la fin du XVIe siècle qui portaient des noms comme Jean, Patrick, Thomas, Guillaume, Édouard. Et alors, on pourra glisser un mot tout à l'heure. Je voudrais vous parler tout d'abord de Sainte Berthe, qui était une abbesse à Blangy. Elle était comtesse, d'ailleurs, de Blangy, dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, c'est-à-dire tout près de la Belgique, quoi. Et cette abbaye dont elle a été abbesse a été pillée et détruite par qui? Bien, par les ancêtres de nombreux Québécois, c'est-à-dire par les Normands, vers 895. Vous savez que les Normands avaient hérité un peu du sang, j'ai l'impression, des Vikings, qui s'étaient établis d'ailleurs en Normandie. Et les Vikings ont été de grands conquérants et des gens assez barbares avant de se convertir. Ils venaient, eux, des pays nordiques. Et alors, les documents écrits du temps de Sainte Berthe sont disparus à cause, justement, de la destruction de cette abbaye. C'est ce qui explique que l'on ne connaît pas tellement de choses sur le plan historique. On raconte beaucoup de choses, je vous en fais grâce, il y a des légendes, des contes assez sympathiques, je trouve ça vraiment très sympathique. On raconte même, disons, que sa fille, qui était entrée au monastère avec elle, une de ses filles, qui était très belle, était courtisée par un homme très puissant qui s'est présenté au monastère à cheval avec des cavaliers voulant entrer dans l'église pour enlever la moniale, la jeune moniale, eh bien, ont été arrêtés comme par une force immense, des anges qui ont répondu aux prières des moniales, etc. On fait toutes sortes de contes comme ça, qui sont bien sympathiques, mais c'est pas tellement intéressant, finalement. De toute façon, on sait que cette comtesse, Berthe, a fondé le monastère de Blangy en 685. C'est 10 ans plus tard qu'il a été détruit. Elle s'y retira elle-même avec ses deux filles. Elle était veuve. Ses deux filles, Gertrude et Déotila, quel nom, qui lui ont succédé d'ailleurs comme abbesse. Et au bout de quelques années à peine, Berthe s'est fait construire une cellule à droite de l'église dans laquelle elle s'est enfermée pour le restant de ses jours. Vous direz, c'est exagéré. Mais savez-vous qu'au début de la colonie de Montréal, au début de Ville-Marie, on a eu une Montréalaise qui a fait la même chose et qui est illustre dans l'histoire de Montréal, et qui s'appelle Jeanne Lebert, qui était d'une famille très respectable ici à Montréal. Et Jeanne Lebert s'était fait construire comme ça une cellule tout près de l'église dans le Vieux-Montréal, et elle pouvait voir d'une petite fenêtre l'hôtel, et ainsi elle pouvait communier. Et Berthe, elle s'est fait enfermer là-dedans, et la cérémonie s'est passée très, très solennellement, en présence de nombreux évêques qui ont béni la cellule, et puis en se retirant, comme de bons évêques, de l'époque peut-être, ils ont confié cette recluse à la garde des anges, disaient-ils. Et alors, la réclusion n'était pas totale, c'est-à-dire qu'elle ne sortait pas, mais il y avait une fenêtre qui donnait sur l'hôtel qu'on appelait de la Sainte-Croix, et chaque jour, sa fille, l'abbesse Déotila, sa deuxième fille, y venait avec toute la communauté pour écouter les enseignements de la fondatrice, de sa mère. Et Sainte Berthe est morte vers 725, car on avait reconstruit l'abbaye, n'est-ce pas, après la destruction en 895 par les Normands. Et alors, les reliques de Sainte Berthe ont été emportée vers 895, d'abord à Mayence, et puis ensuite près de Strasbourg, et enfin à Aspiac. J'ai cherché où c'était, c'est probablement près de Blangy, puisqu'elles ont été rapportées finalement à Blangy, après que le monastère ait été restauré par des bénédictins de la fameuse abbaye de Fécamp en 1032. Donc, Sainte Berthe, une curieuse mère de famille qui a été très courageuse pour les détails que l'on en sait et qui a été jusqu'au bout de son amour pour Jésus-Christ, pour son amour de Dieu, elle est allée jusqu'à entraîner ses filles à sa suite et elle s'est donnée d'une façon constante à l'oraison, à la prière, dans cette petite cellule. C'est d'un courage énorme, mais je vous ai déjà dit que j'avais bien connu un ermite héritier d'une des plus grandes fortunes de France qui a fait la même chose au début des années 70, près de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, en France. Et je l'ai bien connu, je l'ai même interviewé à la télévision à Rencontre, vous avez pu le voir, n'est-ce pas, dont Adalbert de Vogüé. Maintenant, nous allons passer à une autre femme étonnante, une autre mère de famille. Voyez-vous, je vous parle de plusieurs mères de famille aujourd'hui. Ça pourrait intéresser de nombreuses auditrices. C'est Sainte Élisabeth de Portugal, une reine. Mais quelle reine remarquable! Son nom en espagnol se traduit par simplement Élisabeth. Saviez-vous ça, que Élisabeth, c'est-à-dire se traduit en Isabelle en espagnol? Elle était la fille du roi d'Aragon, donc elle s'appelait Isabelle, puisque l'Aragon est en Espagne. Le roi d'Aragon, Pierre III, sa mère était la reine Constance. Elle est née à Saragosse, c'était la dernière de 6 enfants. Elle est née en 1271, puis elle a reçu au baptême le nom d'Isabelle ou d'Élisabeth, en l'honneur de sa grande-tante qui avait été canonisée, la reine Élisabeth de Hongrie, qui était sa grande-tante. Le roi Pierre, qui n'était encore que l'infant, qui devait hériter du trône à cette époque, tant qu'elle continuait avec son père Jacques Ier, et il s'est réconcilié avec lui à l'occasion de cette naissance. Et puis, il lui a laissé le soin d'élever l'enfant. Alors, c'est le grand-père qui a élevé l'enfant pour les 6 premières années de sa vie. Élisabeth a été marquée par son grand-père. Je dis ça pour tous ceux qui sont grands-parents, là. Vous pouvez avoir une influence énorme sur vos petits-enfants si vous savez leur transmettre votre foi délicatement, mais avec confiance et avec intelligence, comme l'a fait le grand-père de Sainte Élisabeth de Portugal. Parce qu'elle n'avait que 6 ans quand son grand-père est mort, mais elle avait déjà reçu toutes les leçons de piété que ce bon vieux roi, qui, après bien des désordres, lui avait transmis, parce qu'il s'était converti, lui. Il avait d'ailleurs fini sa vie sous l'habit des moines cisterciens, il était devenu cistercien. Il avait d'ailleurs prédit avant sa mort que sa petite-fille Élisabeth serait, avait-il dit, c'est la légende en tous les cas qui nous le rapporte, la perle de la maison d'Aragon. Et l'enfance d'Élisabeth de Portugal n'a pas été très longue, puisqu'à 12 ans, on l'a mariée. Imaginez, c'était pas facile que d'être une princesse à cette époque, hein, parce qu'elle avait déjà été demandée en mariage par le prince héritier d'Angleterre, par le prince héritier de Naples. Finalement, elle était donnée en mariage à Nicaro de Portugal. Vous savez, j'imagine que le Portugal fait partie de la grande péninsule qu'on en appelle la péninsule ibérique, c'est-à-dire où qui est occupée surtout par l'Espagne. Et le Portugal est un pays, je dirais, séparatiste dans un sens, puisqu'il est séparé de l'Espagne. Et c'est un petit pays, mais un immense et très puissant pays qui a donné à l'histoire des hommes et des femmes remarquables, dont Élisabeth de Portugal. Et sa nouvelle patrie, le Portugal, l'a accueillie avec enthousiasme. Elle était habituée à se lever de grand matin pour faire oraison, puis elle récitait chaque jour l'office divin. Et imaginez qu'elle ajoutait à cet office divin celui, dit-on, de la Sainte Vierge et celui des morts. C'était 3 petits offices. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais dans les années 40 à la trappe d'Oka, et les trappistes d'Oka récitaient justement ces trois offices. Ils avaient l'office ordinaire, c'est-à-dire le bréviaire que récitaient les moines, qui était déjà très long, des heures par jour, et ils ajoutaient après chaque office un petit office de la Sainte Vierge, puis un petit office des morts. Je trouvais ça, moi, vraiment invraisemblable. Ça allongeait les prières, pas considérablement, mais ça les allongeait quand même. Alors, elle faisait ça, elle, dans son temps, au 13e siècle. Elle est morte en 1336, mais ça se passe au 13e siècle, le siècle précédent. Hein. Et alors, elle passait aussi une grande partie de son temps à travailler pour les pauvres. Elle allait avec ses dames d'honneur dans les églises pour aider à nettoyer les églises, à préparer les messes, les offices. Et surtout, elle travaillait dans les églises pour les pauvres, car les églises à travers l'histoire, et ça a été écrit ça, par Cobbett, un fameux historien anglais, qui a écrit l'histoire de l'église d'Angleterre et d'Irlande, et lui, qui n'était pas catholique, cet homme, mais rend un immense hommage à l'histoire du christianisme, en grande partie catholique, n'est-ce pas? Cet hommage que dans toutes les paroisses du monde entier, ou presque, on s'occupe des pauvres. D'ailleurs ici, dans cette paroisse d'où nous vous parlons, qui est la paroisse Saint-Benoît, on s'occupe des pauvres ici. C'est remarquable, il y a ici des femmes d'une grande bonté, d'une grande gentillesse, qui s'occupent des pauvres, avec d'ailleurs des hommes. Hein. J'étais témoin de ça, je le suis témoin depuis plusieurs mois, et je suis émerveillé de ce qui se passe ici en 1995. Elle visitait aussi les hôpitaux, les asiles qu'elle avait fondés. Elle remplissait les plus humbles travaux, même les travaux difficiles. Hein. Et ses austérités régaler celle des plus grands ascètes, là, si son mari n'y avait pas mis une sage limite. Elle n'avait pas atteint d'ailleurs sa 20e année quand, le 3 janvier 1290, elle a eu son premier enfant. C'était une fille qu'elle a appelée Constance, qui a épousé par la suite le roi Ferdinand de Castille, toujours en Espagne. Et l'année suivante, le 8 février 1291, elle a eu un fils, cette fois-ci Alphonse, qui était héritier du royaume de Portugal. Et là, le roi Denis de Portugal, au début, sa conduite avait été irréprochable, mais il s'est laissé corrompre. Et Élisabeth a enduré beaucoup de souffrances, parce que le roi lui était infidèle et faisait des choses vraiment qu'il n'aurait pas dû faire. Mais dans son cœur de chrétienne profonde, au lieu d'être offensée par les infidélités de son mari, elle priait pour lui, pour sa conversion, car elle était blessée par l'offense qui était faite à Dieu et au sacrement du mariage. Voyez la tournure de son esprit. C'est pas une façon égoïste de souffrir. C'est une façon amoureuse. Et c'est là le signe d'une grande sainteté, à mon avis, ou du moins de quelqu'un qui est en marche vers la sainteté. Elle n'a pas manifesté d'amertume à l'égard de son mari. Elle a poussé même l'héroïsme jusqu'à s'occuper avec bonté des enfants qui n'étaient pas les siens. Imaginez, elle a adopté, élevé, aidé avec amour ses enfants qui étaient innocents. Ils n'avaient commis aucun crime, ces enfants. Ça me rappelle une entrevue avec un jeune chanteur très populaire ici, Mario Pelcha, qui malheureusement a quitté l'Église pour une religion protestante, mais qui a une foi profonde, comme l'a rappelé le pape ces jours-ci, en rendant hommage à des martyrs protestants que des catholiques ont tués. Et Mario Pelcha disait, dans une entrevue à Julie Schneider, qui lui demandait, « Mais que feriez-vous si votre femme était enceinte après avoir été violée ?» Il disait, mais j'élèverai cet enfant, c'est pas de sa faute, le pauvre malheureux, il n'a rien fait. Il avait dit ça avec une spontanéité et un sourire qui m'a ébloui et qui va m'éblouir jusqu'à la fin de mes jours. J'oublierai jamais le regard de Mario Pelcha quand il a dit ça. On dira ce qu'on voudra de Mario Pelcha, je tiens à lui rendre hommage pour la qualité de sa réponse. Et c'est ce qu'elle a fait, elle, Élisabeth de Portugal. Elle a respecté ses enfants, qui n'était pas d'elle. Mais les deuils se sont succédés autour d'elle. Et alors, Son gendre est mort jeune et sa fille Constance aussi. Et le roi Denis, qui a été émerveillé par les vertus de sa femme, est mort en 1325, converti. Élisabeth, alors, qui avait 54 ans, a renoncé immédiatement au monde et s'est coupé les cheveux. Et on pouvait, comme laïque, revêtir à l'époque l'habit démonial de Sainte-Claire, les Clarisses. Elle est partie pour Saint-Jacques-de-Compostelle, ainsi habillée. Elle a offert au sanctuaire de Saint-Jacques-de-Compostelle la couronne d'or qu'elle avait portée le jour de son mariage. Elle a offert d'autres riches présents. L'évêque du lieu lui a donné en retour un bâton de pèlerin, une escarcelle, qu'elle a voulu garder près d'elle même dans son tombeau. Elle a tenu à être ensevelie avec ça. Et elle allait incognito, mais elle est obligée de se cacher très vite parce qu'on l'a reconnue. Hein. Le peuple la vénérait. Alors elle est rentrée dans son palais, puis elle a fait fondre l'argenterie pour l'offrir aux églises pour aider les pauvres. Elle a partagé même les diadèmes et les autres insignes du pouvoir entre la reine Béatrix, qui lui avait succédé, et ses petites filles. Elle souhaitait pour elle-même de finir sa vie au couvent des Clarisses qu'elle avait fondé à Coimbre. Et là, de pieux conseils l'ont décidé à ne pas entrer au monastère, mais à poursuivre ses œuvres de charité dans le monde. Elle a donc été une femme dans le monde. Elle a continué à porter publiquement, cependant, l'habit du tiers-ordre. Ce serait bien difficile de faire ça aujourd'hui quand les religieux et les sœurs n'en portent même plus. Ce serait bien embêtant. Et puis, ça me rappelle, je vous le raconte pour ce que ça vaut, dans la paroisse où j'allais, il y avait une sœur comme ça qui communiait à genoux, un peu excentrique, à la fin de tout le monde. Elle communiait sur la langue, elle était très pieuse, elle faisait son action de grâce. Et en sortant un jour de l'église, je lui ai demandé, « Vous êtes de l'ordre de Saint-François, ma sœur? » Elle dit, « Pas du tout, je suis laïque. » Mais j'ai dit, « Mais vous êtes habillée comme une religieuse. » Ben, j'ai bien le droit de porter ça. Elle dit, « Les religieuses portent bien des jeans. » Enfin, je vous le donne pour ce que ça vaut. Elle avait l'air très contente, d'ailleurs, de me faire cette blague. Je suis resté un peu étonné. Donc, notre sainte Élisabeth de Portugal a fondé finalement une chapelle en l'honneur de la Vierge au couvent de la Trinité à Lisbonne. C'était le premier sanctuaire où on l'a vénéré, l'Immaculée Conception. Puis là, la guerre a éclaté entre son fils et son petit-fils. Elle a entrepris un voyage pour essayer de régler ce problème-là. Et c'est la reine Béatrix, sa bru, là, qui la soignait, et qui avait d'ailleurs été la confidente, hein, puis sa compagne dans sa charité. Eh bien, elle s'est approchée d'Élisabeth, et Élisabeth lui a dit, « Oui, pour cette dame qui s'avance, radieuse dans ses vêtements blancs. » Alors, c'était la vision qu'elle avait de la Sainte Vierge. Et elle s'est endormie en voyant la Vierge et en murmurant « Maria Mater Gratiae, Marie, Mère de toute grâce ». C'était le 4 juillet 1336 et son ensevelissement a eu lieu le 12 juillet à Coimbre, dans l'église des Clarisses. Et elle a été appelée tout de suite la Sainte Reine, le culte public, avec le titre de Bienheureuse, ne lui fut concédé cependant qu'en 1516, sa fête a été fixée au 4 juillet, donc aujourd'hui, et c'est seulement en 1626, que la proclamation solennelle a eu lieu et qu'elle a été acclamée comme Sainte Élisabeth de Portugal. Il paraît, je lisais l'autre jour, que pour devenir un saint, la première chose à faire, c'est d'invoquer l'Esprit-Saint et de lui demander de s'emparer de nous. Je trouve que c'est très sage. C'est fondamental. Esprit-Saint, prends-moi. Pourquoi pas? Voici un saint qui a été pris par l'Esprit-Saint. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, hein? C'est Saint Osée. Bien oui, le prophète Osée, c'est sa fête aujourd'hui. Et il a donné, Osée, un message fondamental de la part de Dieu. Un message sur la miséricorde et sur l'amour de Dieu. C'est extrêmement important dans l'Ancien Testament. Je voudrais par là vous aider à bien comprendre que déjà, dans l'Ancien Testament, des siècles et des siècles avant la venue de Jésus, déjà, Dieu parlait de son amour profond. C'est Adon, en 860 de notre ère, qui est responsable de l'introduction de Saint Osée, puis de Saint Agée aussi, cet autre prophète, à la date du 4 juillet, dans le martyrologe romain. Le martyrologe romain, je vous le rappelle, c'est la liste officielle de l'Église, des saints, qui sont souvent des martyrs, c'est pour ça qu'on appelle ça le martyrologe, mais ce ne sont pas nécessairement des martyrs, comme Sainte Élisabeth de Portugal, Sainte Berthe, dont on vient de parler, ce ne sont pas des martyrs, alors qu'ils sont inscrits dans cette longue liste des saints. Et voilà que Saint Osée et Saint Agis sont célébrés le 4 juillet. Les Grecs, nos frères grecs orthodoxes, qu'on peut appeler les Byzantins, si vous voulez, ceux qui célèbrent la liturgie byzantine. Il y a des gens qui célèbrent la liturgie byzantine et qui appartiennent à l'Église catholique. Je les salue, nos frères unis, mais je salue aussi nos frères séparés, les Grecs orthodoxes, qui commémorent Osée le 7 octobre et Agée le 16 ou le 17 décembre. Et alors, ces deux prophètes ont donné leur message, Osée, lui, vers 750 avant Jésus-Christ, et le second vers 520 avant Jésus-Christ. Mais parlons plutôt d'Osée. Son activité prophétique s'est déployée surtout dans le royaume du Nord, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Samarie ou Israël. C'est un peu compliqué parce qu'Israël, aujourd'hui, ça comprend tellement tout ce grand pays. Mais oubliez ça, Israël, dans ce temps-là, c'était le royaume du Nord. Alors, son activité de prophète là, se place avant celle d'Isaïe, dans le royaume du Sud, lui. Le royaume dit de Juda. Dans le Nord, c'est le royaume d'Israël. Dans le Sud, c'est le royaume de Juda, ou la région de Jérusalem. Et cette activité d'Osée est à peu près contemporaine d'Amos, qui était né en Juda, donc dans le Sud, mais qui est passé dans le Nord, lui, Amos, il est monté dans le Nord. Donc, Osée, ça veut dire « salvator » en latin, « sauveur », d'après Saint Jérôme. Bon, on peut le prendre ou ne pas le prendre. La situation était mauvaise dans le pays d'Osée dans le Nord. Il y avait des révolutions, des assassinats, puis il y avait l'ombre d'Assur. Qu'est-ce qu'Assur? C'est le royaume d'Assur, le royaume que l'on entend souvent sous le nom de le royaume d'Assyrie. C'était la capitale de l'Assyrie à l'époque était Ninive, la fameuse ville de Ninive. On se souvient de Ninive. C'est là qu'a abouti, dans le beau conte, la Jonas, dont je vous parlerai un jour. Donc, l'ombre d'Assur monte, là, comme c'est une menace, contre l'indépendance de ce pays, des Juifs. Leur vie nationale est menacée. Et puis, la capitale d'Assur, Ninive, se déploie, là, puis veut vraiment... ils sont anarchistes, c'est des anarchistes. Et finalement, ils soumettent la Samarie, ce royaume du Nord, en 721. Alors, quand Osée est là, bien, il craint déjà qu'il n'arrive. Ils sont arrivés en 721, et lui, il prêche surtout en 750-735, c'est-à-dire environ 30 ans plus tôt. Puisqu'on va toujours à reculons, c'est avant Jésus-Christ. Alors Israël est adonné au culte qu'on appelle la taurolatrie. C'est pas d'aujourd'hui, hein? La vénération du taureau, la puissance du taureau. Rappelez-vous le veau d'or. Hein? Alors, Dieu, Yahvé, charge Osée de reprocher à son peuple son infidélité, son adultère avec cette idole infâme. Au moyen d'une allégorie qui est très parlante, Dieu dit à Osée, c'est dans le texte, « Va, prends-toi une prostituée, c'est curieux, hein? Car le pays ne fait que se prostituer en abandonnant Yahvé. » Étrange. Moi, je reste un peu pantois devant ça. Mais c'est pas pour ça que j'aime Osée, c'est pas parce qu'il a pris une prostituée à la demande, dit-on, de Dieu. En tous les cas, il a pris une prostituée qui s'appelait Gomer. Elle était la fille de Debélim. Il en fait sa femme. Bon, après tout, pourquoi une prostituée ne pourrait pas changer et devenir une épouse fidèle? Je suis sûr que c'est déjà arrivé bien des fois. Car les prostituées, dit Jésus, seront devant nous dans le royaume des cieux. Nous les méprisons souvent. Mais pourquoi ne seraient-elles pas supérieures à nous parfois pour la qualité de leur cœur? C'est Dieu qui juge. Alors, une fille naît de cette union. Alors, on l'appelle « pas pitié d'elle » et un garçon qu'on appelle « pas mon peuple ». Ce sont des noms sinistres qui expriment le dégoût de Yahvé
pour Israël, mais Dieu est miséricordieux, puis il se réserve pour des jours d'abandon et de remords, pour le retour, puis la conversion de ce peuple qu'il considère comme une folle épouse qui est séduite par l'idolâtrie. Puis il dit, « Je la conduirai au désert et je lui parlerai en me penchant sur son cœur. » Dieu a des paroles douces et consolantes pour la faire sourire dans ses larmes. Il lui dit, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi dans la justice et le droit et la bienveillance et l'amour. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et le remords. » Pour le retour puis la conversion de ce peuple qu'il considère comme une folle épouse qui est séduite par l'idolâtrie. Puis il dit, « Je la conduirai au désert et je lui parlerai en me penchant sur son cœur. » Dieu a des paroles douces et consolantes pour la faire sourire dans ses larmes. Il lui dit, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi dans la justice et le droit et la bienveillance et l'amour. Je te fiancerai à moi dans la fidélité. Tu connaîtras ton Dieu, Yahvé. » Que c'est beau. Et Dieu aura pitié d'elle. Il aura pitié de pas pitié d'elle, la fille, et de pas mon peuple, le garçon. Et il dira, « Tu es mon peuple. » Et l'enfant répondra, « Mon Dieu. » Mon Dieu, quand le fils d'Osée, on parle du prophète Osée, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, quand son fils dit à Dieu, mon Dieu, il le dit avec beaucoup d'amour, c'est dans le texte. Hein. On pourrait dire que toute cette histoire dépasse, moi, à mon goût en tous les cas, ça dépasse en émotion le Cantique des Cantiques. Contre les prêtres indignes, il dit, mon peuple a péri par manque de connaissance. Parce que toi, prêtre indigne, tu as répudié la connaissance, je te répudierai du sacerdoce à mon service. Il n'y va pas de main morte. Hein? Il faut donc que nos prêtres, tous, soient bien fidèles à la connaissance, la plupart le sont, je pense bien, sinon pas tous. Parce que connaître, c'est pas simplement connaître les vérités que l'Église enseigne, sont transmises, à mon avis, par le pape, ou à tout le moins par l'ensemble des évêques, par la tradition de l'Église, par les saintes Écritures. C'est aussi cette connaissance intime qu'on a de Dieu dans la prière. Et je crois que les prêtres qui prient profondément leur messe, leur bréviaire, déjà, on le sent dans leur prédication, et Dieu les aime. Et nous avons laïcs tellement besoin d'eux. Et j'en profite pour manifester toute ma reconnaissance à tous les prêtres qui m'ont aidé depuis mon enfance. Je pourrais donner une liste énorme de noms. Je n'en finirai plus. Dieu se prononce aussi dans les textes d'Osée, au chapitre 6 cette fois-ci. Contre les prêtres, c'est au chapitre 4, surtout verset 6. Mais là, c'est le chapitre 6, verset 6 encore. C'est contre le formalisme religieux. C'est un des plus beaux textes de l'Ancien Testament. Je vous le lis, c'est même pas deux lignes. « C'est la piété que je désire et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Je le répète, c'est trop beau. C'est fondamental. « C'est la piété, dit Dieu, que je désire et non le sacrifice. » Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Telle fraîcheur que ces paroles, hein? Ça nourrit l'âme, hein? Ça nourrit nos vies. On peut revenir sur ces paroles-là tous les jours de notre vie. Hein? Parce qu'on y voit là l'amour de Dieu, l'amour pour chacun d'entre nous. Il ajoute, comme des raisins dans le désert, je trouvais Israël, comme une primeur sous le figuier, je vis vos pères. Plus loin, il dit, quand Israël était enfant, je l'aimais. Et depuis l'Égypte, j'adressais des appels à mon fils. J'appris à marcher à Éphraïm. Je le pris sur mes bras. Je le pris sur mes bras. Sur ces paroles-là, tous les jours de notre vie. Parce qu'on y voit là l'amour de Dieu. L'amour pour chacun d'entre nous. Il ajoute, comme des raisins dans le désert, je trouvais Israël. Comme une primeur sous le figuier, je vis vos pères. Plus loin, il dit, quand Israël était enfant, je l'aimais. Et depuis l'Égypte, j'adressais des appels à mon fils. J'appris à marcher à Éphraïm. Je le pris sur mes bras. Je le pris sur mes bras. Mais ils ne reconnurent point
que je me suis appliqué à les guérir. Je les tenais par des attaches humaines, par des liens d'amour. Et je fus pour eux comme qui élèverait un nourrisson tout contre ses joues. Un Dieu qui prend le peuple comme si c'était un nourrisson, puis se l'appuie contre sa joue. Que c'est beau. Je me penchais vers lui et lui donnais à manger. Dieu se penche vers nous et nous donne à manger dans cette Eucharistie que j'espère pour chacun d'entre vous, quotidienne si vous le pouvez. Quotidienne. Et les perspectives finales du livre d'Osée sont apaisantes et réconfortantes. N'oubliez pas que ce texte a été écrit vers 740 avant Jésus-Christ. Je le rappelle, l'an 740 avant Jésus-Christ. Écoutez bien les textes du chapitre 9, verset 9. Je ne mettrai pas à exécution l'ardeur de ma colère. On nous parle souvent de la colère de Dieu. Dieu va détruire une partie du monde. Mon Dieu. Et dans la Genèse, hier, dans la lecture fériale, c'était la fête de saint Thomas, mais on pouvait faire la lecture du texte que l'Église nous propose en ce jour, c'est bien de ce discours entre Abraham et Dieu dit bien qu'il ne veut pas, finalement, détruire Sodome. Il le détruit. Mais il dit bien, par après, beaucoup plus tard, parce qu'il a formé son peuple, il l'habitue de plus en plus à comprendre que Dieu l'aime et Dieu ne détruit pas. Et il dit bien, je ne mettrai pas à exécution l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu, moi, et non pas homme. Je suis saint au milieu de toi, S-A-I-N-T, je suis saint au milieu de toi, et ne me plais point à détruire. Donc, l'an 740 avant Jésus-Christ, écoutez bien les textes du chapitre 9, verset 9. Je ne mettrai pas à exécution l'ardeur de ma colère. On nous parle souvent de la colère de Dieu. Dieu va détruire une partie du monde. Mon Dieu. Et dans la Genèse, hier, dans la lecture fériale, c'était la fête de saint Thomas, mais on pouvait faire la lecture du texte que l'Église nous propose en ce jour, c'est bien de ce discours entre Abraham et Dieu dit bien qu'il ne veut pas, finalement, détruire Sodome. Il le détruit. Mais il dit bien, par après, beaucoup plus tard, parce qu'il a formé son peuple, il l'habitue de plus en plus à comprendre que Dieu l'aime et Dieu ne détruit pas, et il dit bien, je ne mettrai pas à exécution l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu, moi, et non pas homme. Je suis saint au milieu de toi, S-A-I-N-T, je suis saint au milieu de toi, et ne me plais point à détruire. Donc, chapitre 9, verset 9 du livre d'Osée. Un petit mot sur le prophète Agée aussi, qu'on célèbre aujourd'hui. Son ministère prophétique, là, c'est daté, d'après les recherches, là, des premiers jours du sixième mois de l'an 2 de Darius, roi des Perses. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? On peut fixer ça au mois d'août et au mois de septembre de l'an 520 avant Jésus-Christ. Voyez-vous, comme quand on parle des exégètes, là, ils peuvent nous préciser des choses qu'on imagine guère, mais ça fait déjà des siècles qu'on peut préciser ces choses-là. Hein? C'est pas d'aujourd'hui. C'est donc au moment de la restauration du second temple à Jérusalem, lors du retour à l'exil. Et c'est très important ce que dit Agée. Pour nous qui avons l'impression que l'Église est comme détruite sous nos yeux, elle n'est pas détruite, elle est toujours là, l'Église. Il faut garder confiance en lisant le prophète Agée. On peut dire qu'il a été un survivant âgé de l'époque du premier temple. Si on lit bien son texte, il aurait été déporté en 586, puis il aurait fait partie d'une famille qui était rapatriée à Jérusalem. Alors, ils auraient abandonné Babylone en 538, après à peu près 50 ans d'exil. Et tous les discours du prophète Agée, de saint Agée, si on veut, se rapportent à la grande affaire de la reconstruction du temple. Il offre un message tonique là, pour les gens difficiles qui suivent les ruines, les cataclysmes, les destructions massives. Agée, c'est le chantre de l'effort, un effort plein de zèle pour réédifier l'Église. Lisez Agée, vous deviendrez, comme lui, zélé pour reconstruire l'Église, car il faut la reconstruire. Elle ne se reconstruira pas toute seule. Dieu a besoin de nous. Il faut l'écouter. Il parle, voici ce que dit Agée. Est-ce le moment pour vous autres de rester dans vos maisons lambrissées? Lambrissées, c'est-à-dire avec des lambris, des décorations, là, des murs magnifiques avec du bois qui sent très bon, là. Est-ce le moment pour vous autres de rester dans vos maisons lambrissées quand cette maison, avec un grand M, le temple, est en ruine? Et maintenant, ainsi parle Yahvé des armées, considérez votre destinée. Reviens souvent à ça, considérez votre destinée. Allez à la montagne, c'est-à-dire allez prier. Aller à la montagne, ça veut dire rendre compte, s'élever plus haut pour être plus près de Dieu. C'est le symbole, n'est-ce pas? Allez à la montagne, amenez du bois et bâtissez ma maison. Évidemment, il parle de la montagne de Sion en même temps, où est construit le temple. J'y trouverai mon plaisir, dit Dieu, et ma gloire. Ainsi parle Yahvé des armées. Considérez votre destinée. Voyez-vous, ça revient encore. Considérez votre destinée. Vous vous attendiez à beaucoup, et voilà que cela se réduit à peu de choses. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on s'attendait à beaucoup. C'était plein de vocations, c'était plein de gens qui pieux, religieux, c'était plein de missionnaires, c'était plein de gens qui souhaitaient donner leur vie. Les jeunes à 16 ans pensaient tous devenir prêtres ou religieux, sauf exception. Mon père, toute sa vie, a regretté de ne pas s'être fait prêtre, même s'il ne pratiquait plus depuis longtemps. Et ma mère, pas longtemps avant de mourir, regrettait de ne pas s'être faite sœur de Sainte-Anne. Et l'avant-veille de sa mort, c'était de ne pas être carmélite. Alors, voyez-vous, ça habitait nos gens autrefois. Dieu dit aussi, quand vous avez engrangé, j'ai soufflé dessus. À cause de quoi? À cause de ma maison qui était en ruine, pendant que vous vous empressiez chacun pour sa maison. Cessons donc de penser à notre petite affaire. Pensons aux autres, à la construction de l'Église, et Dieu ajoute, courage, tout le peuple du pays, et travaillez, car je suis avec vous. Mon esprit demeure au milieu de vous. N'ayez pas peur. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, n'ayez pas peur? J'étais là sur la place Saint-Pierre en 78 au mois d'octobre quand le pape Jean-Paul II a été élu. J'en parle, j'ai presque les larmes aux yeux, tellement j'étais ému de voir cet homme qui nous disait « N'ayez pas peur ». C'était ses premières paroles. Quel homme merveilleux. Moi, je l'aime. Passerai pour quelqu'un de droite. Ça ne me dérange pas. J'aime ce pape. Je le crois sincère. Je le crois entier et convaincu de ce qu'il dit. On peut ne pas toujours partager ce qu'il dit, mais je le respecte profondément. Le message, en tous les cas, se termine dans Agé. Sur toi, j'ai fixé mon choix. Sur toi, j'ai fixé mon choix. C'est important, ça. Dieu a fixé son choix sur chacun d'entre nous. Hein. Qu'on se fasse pas d'idées. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour qui me disait « Jamais je n'arriverai à être une sainte. » Mais non, Dieu a fixé son choix ici, aussi sur elle. Hein. Sur chacun d'entre nous. En tous les cas, Agé a exalté les gens qui participaient à la reconstruction du temple de Jérusalem. On pourrait croire que tout ce texte du prophète Agé, là, c'est comme un texte qui aurait pu, s'il y avait eu une radio dans le temps, être dit sur la radio pour diffuser vraiment la parole de Dieu. Ça chauffe les ailes qui sont insuffisantes. Et la voix d'Agé, bien, elle est appuyée par celle du prophète Zacharie, hein, qui appartenait à une famille sacerdotale qui vient après lui. Et puis, saviez-vous que c'est grâce à une subvention du gouvernement perse, les Iraniens d'aujourd'hui, que le temple a été achevé en l'an 6 de Darius, c'est-à-dire en l'an 515. C'était un temple bien réduit, bien modeste, en comparaison de l'immense construction du roi Salomon qui avait précédé. Mais ce nouveau temple était le symbole d'une vaillante renaissance spirituelle. Agé est commémoré chez les Grecs les 16 ou 17 décembre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous pouvons célébrer avec nos frères grecs, avec nos frères orthodoxes, un grand saint de l'orthodoxie, c'est saint André de Crète. Nous le connaissons bien peu dans l'Église latine, mais c'est un très grand saint chez eux. Il est né à Damas, en Syrie, vers l'an 660, et vers l'âge de 15 ans, il a été conduit par ses parents, déjà, au monastère du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Vous êtes allés, probablement plusieurs d'entre vous, à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, où on peut visiter l'endroit où le Christ a été enseveli. Et qui comprend d'ailleurs aussi ce tout petit amoncellement de pierre qui est le calvaire. C'est très bouleversant d'aller à l'église du Saint-Sépulcre. Alors, il est entré dans ce monastère à 15 ans. Vous direz, c'est bien jeune. Je vous rappelle l'histoire que je vous ai déjà dite à l'abbaye d'Aiguebelle, où j'étais en 1978 environ. Je suis allé à l'abbaye d'Aiguebelle, dans le sud de la France. Le père hôtelier était un homme très moderne et tout ça, et qui m'a avoué qu'il était entré là à l'âge de 13 ans. Mais c'était un homme tout à fait adapté et tout à fait moderne. Alors donc, il a reçu les ordres mineurs, il a rempli successivement les charges de notaire du monastère et finalement d'économe général. Et puis, il était ordonné à Constantinople diacre dans la belle église Sainte-Sophie, qui est maintenant la propriété des musulmans, qui ont envahi, il y a bien longtemps, extrêmement, plus de 1000 ans, la ville de Constantinople, qui est devenue Istanbul, hein, et Sainte-Sophie, qui est toujours là, debout, appartient aux musulmans. Donc, il a été ordonné diacre là. Il a reçu la direction d'un orphelinat, d'un hospice de vieillards. Il a été nommé finalement archevêque de Gortyne en Crète, en Grèce, à une date inconnue. Mais en tout cas, c'est certainement après 692, il avait au moins 32 ans. Il a administré très très bien son diocèse. Il a reconstruit les églises parce qu'elles avaient été détruites par les musulmans. Il a édifié un sanctuaire dédié à Notre-Dame des Blachernes en l'honneur de Notre-Dame des Brés. Très, très bien son diocèse. Il a reconstruit les églises parce qu'elles avaient été détruites par les musulmans. Il a édifié un sanctuaire dédié à Notre-Dame des Blachernes en l'honneur de Notre-Dame des Blachernes à Constantinople, Istanbul. Cette église Notre-Dame des Blachernes, où on a vénéré quelque temps plus tard, le Saint-Suaire de Turin, c'est là qu'on bénissait la foule tous les vendredis après-midi avec le Saint-Suaire, à Constantinople. Et puis, il a reconstruit aussi une vaste hôtellerie pour les gens. Lors d'une attaque des musulmans, qu'on appelait les Sarrasins, il n'a pas eu peur de prendre part de façon active à la défense de l'île de Crète, dont il était l'archevêque. Il a été un orateur aussi, puis un grand poète. C'est surtout ça qui fait évidemment sa célébrité. Il a écrit beaucoup pour l'usage liturgique de nos frères qui suivent la liturgie byzantine, dont quelques-uns sont catholiques, comme le patriarche Maximos V, que vous avez pu entendre dimanche matin à Radio Ville-Marie, ce merveilleux homme que je connais depuis bien longtemps, que j'ai déjà reçu chez moi, il y a, mon Dieu, c'était 1974 à peu près. Et alors, les Grecs, les orthodoxes, ont considéré André de Crète, Saint André de Crète, comme inspiré de Dieu. Et beaucoup de ses compositions sont passées dans leur liturgie. Elles y sont encore, hein, puis... Comme orateur, Saint André de Crète se présente comme le meilleur des homélistes byzantins. Son œuvre est importante, surtout dans le développement de la liturgie, la théologie mariale. Imaginez qu'il enseigne déjà, lui, l'Immaculée Conception. On reproche beaucoup aux catholiques latins de croire à l'Immaculée Conception. On nous taquine avec ça, on n'en revient pas. Hein. C'est un dogme qui a été proclamé en 1854. Mais là, nous sommes au 8e siècle. Et André de Crète parle avec beaucoup d'estime de l'Immaculée Conception. Simple, c'est pas une fantaisie chez lui. Il parle aussi de l'Assomption de la Sainte Vierge, d'homme qui a été promulgué en 1950. Oh, mon père m'a bien taquiné là-dessus. Il me dit, regarde, pauvre toi, ton Pacelli, il voulait dire Pie XII, ton Pacelli t'oblige à croire à l'Assomption. Mais il était pas méchant, mon père. Il est mort très chrétiennement comme un excellent catholique. Je lui rends hommage. Je suis sûr qu'il est mort comme un saint, cet homme. Et puis, André de Crète unit donc l'Immaculée Conception puis l'Assomption de la Vierge Marie. Non seulement, dit-il, la naissance de Marie a été sainte, mais aussi sa conception, car elle est fille de Dieu à un titre spécial, et Dieu est intervenu d'une manière particulière à ce moment-là. La Vierge est les prémices de l'humanité restaurée qui, en elle, retrouve sa beauté primitive. Quant à la mort de la Vierge, il ne faut pas la comparer à celle des autres hommes, mais à celle de son Fils. Il écrit, comme lui, Elle a dû passer par la même loi que nous, bien que, sans doute, non de la même manière que nous, mais d'une manière plus excellente et pour un motif supérieur, bien différent de celui qui nous conduit à ce terme fatal qu'est la mort. En d'autres termes, elle croit il croit vraiment que la Vierge a été immaculée dans sa conception dans le sein de Sainte Anne, sa mère, que nous célébrerons le 26 de ce mois. C'est ça l'Immaculée Conception. Ça n'a rien à voir avec la virginité de Marie. Il y a des gens qui mélangent ça. L'Immaculée Conception, c'est qu'elle, elle a été dans sa conception immaculée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a été préservée dès l'origine de toute trace qu'il aurait pu avoir dans les gènes de son père et de sa mère, du péché, des faiblesses, des choses qui auraient pu l'entraîner de façon, pour ainsi dire, presque irrémédiable, au début du moins, à faire certaines fautes ou certains péchés ou certains gestes ou idées qu'elle n'aurait pas dû avoir ou faire. En tous les cas, la mort de Marie n'est qu'une courte dormition, dit-il, suivie bientôt d'une assomption glorieuse. Alors donc, dans la pensée de saint André de Crète, les louanges qu'il décerne à Marie sont à prendre dans leur sens littéral. Marie est la seule sainte, dit-il, la plus sainte de tous les saints. Il va pas de même ordre, on comprend ce qu'il veut dire. La seule sainte parfaite, ce qu'il veut dire. Elle est parfaite, entendons-nous. Le Christ est vraiment le saint, le parfait, mais elle, comme créature, elle n'était pas une déesse. Il ajoute, elle était parue toute pure à celui qui, tout entier, corps et âme, a habité en elle. Pour terminer, je vous signale que quand l'empereur Léon a attaqué le culte des images, car vous savez qu'il y a eu une grande querelle chez les orthodoxes, à savoir si on pouvait faire des icônes, eh bien, André a pris énergiquement la défense des icônes, c'est-à-dire des images saintes. Après une famille puis une peste qui ont désolé son diocèse, il s'est rendu à Constantinople, qui est en Turquie aujourd'hui, pour chercher des secours, puis alors il est mort au retour, sur l'île de Lesbos, à Erissos, le 4 juillet de l'an 740, et on l'a enterré dans l'église Sainte-Anastasie. N'oublions jamais que nos frères grecs l'ont toujours considéré comme un saint. C'est aussi la fête aujourd'hui de martyrs laïcs, 6 laïcs et 2 prêtres. Les 4 premiers, ce sont les bienheureux martyrs de Dorchester, qui sont morts en 1594, le 4 juillet 1594. C'était des catholiques romains, et non pas des anglicans, qui ont été suppliciés à Dorchester, et au sud de l'Angleterre. C'est presque comme une côte d'azur dans ce coin-là, presque, mais leur nom était John Cornelius, un prêtre, Thomas Bosgrave, John Carey, puis Patrick Salmon. Les 3 derniers étaient des laïcs. Le premier, le prêtre, était de parents irlandais. Il avait étudié à Oxford, puis il avait décidé de passer au collège anglais de Reims, en Champagne, puis enfin à Rome, où il a été ordonné. En 1588, donc 6 ans avant leur martyre, il y avait eu la fameuse expédition de ce qu'on appelle l'invincible armada. Philippe II d'Espagne avait envoyé un ensemble de bateaux, n'est-ce pas? C'était fantastique pour châtier l'Angleterre, hein? Mais ça a échoué terriblement. Et c'est pas par la guerre qu'on réunifie l'Église, il n'y a aucun doute. C'est par l'amour. Et Philippe II était dans l'erreur terriblement avec son invincible armada. Mais il faut comprendre l'époque. Il faut se remettre dans le temps. Et peut-être que dans le temps, j'aurais été de son côté. Aujourd'hui, avec ce que j'ai appris par l'histoire de l'Église, et par tout ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui, on le voit bien, c'est par l'amour. Et le pape nous l'a bien enseigné ces jours-ci. Alors, l'anglicanisme se trouvait en toute liberté en Angleterre, maintenant n'était plus menacé par les Espagnols. Et Cornelius, ce prêtre, a travaillé dans les missions anglaises pendant quelques 10 ans sans être pris. On le considérait comme un homme d'un zèle peu commun. Il avait une vie intérieure profonde et très riche. C'est le 24 avril 1594, donc quelques mois avant sa mort, qu'il a été arrêté par le shérif de Dorset chez une dame à qui il servait de chapelain. Et tandis qu'on l'entraînait, il était pris au dépourvu.
et sans chapeau. Imaginez, un homme, un prêtre, devait porter un chapeau dans le temps, je me souviens. Moi, je suis entré au grand séminaire pour quelques mois seulement, malheureusement, en 1950. Il fallait porter un chapeau. Comme j'avais une grosse tête, il fallait que je fasse faire mon chapeau à New York. Il n'y en avait pas à Montréal, imaginez. Il fallait porter un chapeau. C'était très, très grave. Oh là là, hein, oui. Alors là, bien, il a rencontré ce pauvre homme sans chapeau, Thomas Bosgrave. Ce laïc était tué en même temps que lui. Il était d'une famille honorable dans le pays de Cornouailles, là. Puis, il lui a offert son chapeau en disant, « Je respecte trop votre fonction, mon père, pour souffrir que vous alliez ainsi tête nue. » Alors, cette politesse, qu'est-ce que ça lui a mérité? Ben, une arrestation, et puis, la mort. C'est incroyable. Simplement, on va avoir donné son chapeau. Et deux domestiques du château, où le prêtre, le Cornelius, était chapelain, ont été arrêtés eux aussi. Ils se nommaient John Carey puis Patrick Salmon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils étaient originaires de Dublin, en Irlande, deux Irlandais. Alors, le prêtre Cornelius, là, John Cornelius, a été amené à Londres. Il a été traduit devant un conseil privé, qui a ordonné de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonce ceux qui l'avaient logé ou assisté, mais il n'a jamais parlé. On voit ça durant la dernière guerre, hein, sous les nazis, là, ces héros français de la résistance, qui n'étaient pas nécessairement des catholiques, qui ont donné leur vie comme ça, ne refusant de parler. Quelle noblesse de cœur et quelle grandeur d'âme. Hein. Alors, on l'a renvoyé à Dorchester pour le jugement, puis le 2 juillet, on l'a déclaré coupable de haute trahison, puis peut-être de haute tradition, oui, puisqu'il était fidèle à la tradition catholique romaine. Alors là, les trois autres, ses complices, ont été taxés, eux, de félonie. Mais s'ils avaient apostasié, ils auraient bénéficié d'un sursis. Ils ont été exécutés le 4 juillet 1594. Le prêtre a été traité plus mal que ses compagnons. Alors, ils ont tous professé leur foi, leur attachement à l'unité de l'Église. Ils ont souffert les premiers, les laïcs. Et le prêtre, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, avant qu'il ne meure, il s'est incliné devant eux, il s'est mis à genoux, puis il a baisé leurs pieds. Un prêtre qui baise les pieds de trois laïcs qui vont mourir martyrs, parce qu'il reconnaissait chez eux leur héroïsme. Le prêtre n'a pas eu le droit, cette fois-là, de parler au peuple. Pourtant, on avait la coutume, les Anglicans avaient la coutume de laisser parler les catholiques au peuple et de dire leur foi. Il a déclaré cependant qu'il avait été admis dans la compagnie de Jésus, mais qu'il n'avait pas pu faire son noviciat. Il a prié pour ses bourreaux, il a prié pour la reine en public. Après le supplice, la tête de ce martyr a été clouée au gibet, mais ensuite on l'a enlevée à la demande des habitants qui étaient horrifiés par tout ça. Il faut dire que le peuple n'aimait pas ces massacres. C'est Pie XI en 1929 qui a béatifié ces martyrs. Il y a eu d'autres martyrs aussi à York en 1597. Et ces martyrs ont aussi été extrêmement honorables.